그놈 이제 배에 좀 저도 섬겠네 되는 아주 괜히 제보래
Voilà, donc bien sûr qu'au départ, il faut nous établir dans la juste motivation, c'est-à-dire vraiment penser, vouloir établir tous les êtres dans le parfait état d'éveil. Voilà, donc normalement nous en sommes arrivés aux 10 choses dans lesquelles il faut persévérer. Hein, c'est ça? Voilà. Donc la première instruction, les débutants ou débutantes doivent persévérer dans l'écoute des enseignements et la réflexion sur leur sens. Non, voilà, donc bien sûr ça rappelle l'importance du lama, l'importance de l'écoute. Ça c'est vraiment la première étape, et ensuite la réflexion. Ensuite, quand l'expérience, donc suite à l'écoute et la réflexion finalement, quand l'expérience spirituelle apparaît, alors persévérer dans la pratique de la méditation.
Non.
Et en même temps ici, eh bien, cela.
Gosum c'est de l'unga yisum gore va.
La sol. Y en a un gosum mene. Tu dois connaître ça n'anga.
Gomyo ki ne.
Non.
Gosum marco gomjup la
non. J'ai on j'ai la gomjup. Non.
Gomjup.
La sol.
Gomjeta jupje la.
La sol. Là, voilà, donc ici, quand l'expérience spirituelle apparaît, il faut persévérer dans la pratique de la méditation. Ici, la main indique, c'est aussi cette qualité d'attention vigilante, évidemment, qui suppose que l'on va développer ce maintien de l'attention au niveau de l'activité du corps, de la parole, comme de l'esprit. Voilà, troisième instruction, eh bien, tant que cette expérience donc méditative n'est pas stabilisée, où l'expérience de l'esprit n'est pas stabilisée, il faut alors persévérer dans le retrait, en fait, dans l'isolement et le retrait.
Voilà, Choko xie qie na rikpa ju la nian dian jie jia song re da.
Voilà, et si dans cette pratique méditative, l'on voit que l'agitation ou la dispersion domine en nous, eh bien, persévérer dans la maîtrise de l'esprit, dans le fait de cultiver l'esprit. Non, là toute l'idée ici dit Lama, c'est de, on pourrait dire, de cultiver la stabilité. Parce qu'on peut imaginer avoir fait naître cette stabilité, puis ensuite l'idée c'est de la cultiver et de la maintenir. Et donc on est alors confronté forcément aux agitations, aux perturbations, mais de la même manière dans l'instruction suivante, ce qu'on appelle Chinmuk, c'est-à-dire la torpeur et la somnolence. Et donc dans le cas de torpeur et de somnolence, eh bien là on va essayer, dit Lama, d'ouvrir l'esprit, de le clarifier, de le juste ouvrir. Voilà, donc a priori ici, ce dont il est question, c'est ces instructions qu'on trouve aussi dans la pratique de Shiné, c'est-à-dire du calme mental, où on donne des instructions finalement très pratiques pour contrer l'une ou l'autre de ces difficultés, mais très naturelles, qui apparaissent. C'est-à-dire que quand il y a beaucoup d'agitation, de perturbation, alors là, on recommande, par exemple, s'habiller plus chaudement, manger d'une manière plus riche. Et au contraire, quand nous constatons que dans notre pratique méditative, nous sommes souvent soumis à la torpeur, à la somnolence, dans ce cas-là, on recommande, par exemple, de s'installer dans un endroit plus frais, de porter des habits plus légers, de manger de manière plus légère, mais aussi de porter le regard au loin, c'est-à-dire tout ce qui va rafraîchir, tout ce qui va ouvrir l'esprit. Et ensuite, tant que l'esprit n'est pas stable, et ici, Lama dit finalement, tant que nous n'avons pas une certaine liberté en esprit, tant que nous n'avons pas une certaine maîtrise de l'esprit, eh bien, persévérer. Alors là, on parle d'absorption méditative, mais aussi, Lama parle de l'esprit en un seul point. Donc, continuer à s'exercer aux exercices de concentration, en fait. Non. Et ensuite, s'étant livré à l'absorption méditative, ici Nyamja, c'est le fait de placer l'esprit dans sa disposition naturelle, en fait, eh bien, persévérer ensuite dans la phase de post-méditation, lorsqu'on en sort de la session. Ici, vraiment, le terme de Nyamja, Dilama, est utilisé pour parler du moment méditatif. Et le terme de Jetop est vraiment utilisé pour le post-méditatif, c'est-à-dire toute l'activité ordinaire. Et en fait, l'idée, c'est que pendant la méditation, eh bien, on va cultiver ces qualités méditatives, mais ensuite, l'idée, c'est aussi d'essayer, lors des intercessions ou dans l'activité ordinaire, eh bien, de maintenir cette qualité d'attention, ce qui est une façon de poursuivre cette pratique. Et ensuite, quand on rencontre de nombreuses circonstances défavorables, on pourrait dire inharmonieuses aussi, et bien persévérer dans les différentes formes. Là, on parle des trois formes de patience.
Tant alors que mentiba tele de tingaro ta garbiti ji mongbo alors yogja mongbo chongna so ren yogja namina so
là so ici galwekin ou galken c'est vraiment tout ce qui est obstacle, tout ce qui est circonstance défavorable que l'on prend comme défavorable. Mais ici, Dilama, c'est vraiment tous les ennuis possibles et imaginables que l'on peut rencontrer dans la vie. Hein. Vraiment, c'est très large comme terme. Je pense que le lama est en train de chercher.
Je ne sais pas la maison. On s'en pas encore. Je ne sais pas si c'est la Nadie la chimenea empezó a pasar ya de abajo. Chuy la gato que se pasa se va a llevar. Chuy la gato que se va. Nadie que yo ya chona chimenea empezó a
pasar. Voilà, ces trois formes de patience, eh bien, c'est à la fois la patience dans son sens, on pourrait dire ordinaire ou standard, c'est-à-dire la patience face aux difficultés. Mais la deuxième forme de patience, c'est la patience spirituelle, en quelque sorte. C'est-à-dire la patience dont on doit aussi faire preuve dans l'ascèse, dans la pratique méditative, dans la pratique spirituelle de manière générale. Bien sûr, donc, dans le domaine de la pratique spirituelle, cette patience est requise.
Donc
voilà, lama saute la troisième forme, mais qui est une forme de non-découragement. Ensuite, quand l'attachement et le désir sont trop forts, il faut persévérer dans l'emploi des moyens puissants qui permettent de les contrer.
Oui,
l'idée est vraiment de s'affranchir profondément de ce à quoi nous sommes soumis finalement. Mais ici, dit Lama, pour cela, il y a toute une démarche qui consiste à nous rendre compte que d'abord, il y a plein de défauts liés au fait d'être soumis ainsi aux choses par attachement, et ça, il faut le conscientiser, s'en rendre compte, et s'en rendre compte aussi que ces formes d'attachement sont vraiment, on pourrait dire, à la racine même des états conditionnés, c'est-à-dire des états répétitifs dans lesquels, en fait, on se retrouve. Et autre domaine dans lequel on persévère ici, dans l'instruction suivante, c'est dans l'amour et la compassion, si elles sont trop faibles. Alors persévérer dans le développement de l'esprit d'éveil. Voilà les choses, on pourrait dire, essentielles, nécessaires, dans lesquelles il nous faut persévérer. Non. Ensuite, on parle là des 10 incitations. Kulma, c'est aussi ce qui nous inspire, hein, les 10 incitations ou inspirations.
Kulma dhabi chu chene, tangyur nye kawala samte, dhambi chu la kulma dhas.
Non. Donc, en tout premier lieu, réfléchir à la précieuse existence humaine qui est libre et bien pourvue, comme on l'a vu l'autre jour, eh bien, là, c'est une incitation à la pratique du dharma. Voilà, c'est là de nouveau, c'est toute une démarche de réflexion qui consiste à vraiment réfléchir à ce que l'on veut dire quand on parle d'une précieuse existence humaine libre et bien pourvue. Donc, quelles sont ses libertés, quelles sont ses différentes richesses? Et l'idée est d'y réfléchir autant en termes de causes qui permettent l'obtention d'une telle situation, mais aussi des exemples qui vont l'illustrer, mais aussi des rapports de probabilité qui nous montrent combien cette existence est rare. De, toujours dans l'idée de ne pas gaspiller, bien sûr, ensuite, cette existence dont on sait consciemment qu'on la possède. Non, ouais, on est vraiment là dans ces 10
incitations.
Donc voilà, on a tenu Chiwa Metapa. Chiwa Metapa.
Là,
tu vois, mais t'as pas ni pas des voilà.
Ah, donc, mais t'as déjà ni un caval. Ah, santé, t'as mis tu es dans le madame, son
nom. Ah,
tu ne vois pas, tu vois. Tu ne vois pas, mais t'as pas la santé, déjà la madame.
Là, voilà. Deuxième instruction, la réflexion sur l'impermanence et la mort. Et cette fois-ci, elle est vue là comme une incitation. Ben aussi à la pratique de la vertu. La vertu, c'est vraiment au sens très large, hein, tout acte spirituel. Faudrait peut-être qu'on parle un peu de l'impermanence, dit Lama. Non,
mais tu n'as pas
Voilà. Et pour en parler, on peut revenir à des constats, c'est-à-dire que notre propre impermanence, dans le sens de notre fragilité, elle ne dépend pas de l'âge que l'on a, elle ne dépend pas non plus de l'état de santé qu'est le nôtre.
Pena gaje ke ma chala ma ke kone shigyore gaje ke tsane shigyore.
Non. On peut mourir vraiment à tout moment. On peut mourir dans le ventre de sa mère, mais on peut aussi mourir juste au moment où nous venons de naître.
Non.
Et c'est vrai que si on y réfléchit bien, on voit bien que dès l'instant où l'on sort du ventre de sa mère jusqu'au moment où nous allons mourir, il y a une infinité de possibilités qui font que nous pourrons mourir à un moment ou à un autre. Mais en tout cas, le critère de l'âge n'en est pas un. Pourquoi? Bah, tout simplement, on voit bien qu'il peut y avoir une personne âgée qui aura vu une quantité innombrable de bien plus jeunes que lui qui seront morts avant lui, donc. Non. On ne peut pas, parce que simplement, sous prétexte que nous sommes jeunes, penser qu'intérieurement, nous avons l'assurance d'être certains de ne pas mourir. Ce n'est pas un critère.
Non.
De la même manière pour la maladie. n'y a pas de certitude sur laquelle on puisse s'appuyer en nous disant que parce que nous ne sommes pas malades, donc nous ne risquons pas de mourir. On voit combien de malades qui continuent, tout en continuant à être malades, voire un très grand nombre de personnes apparemment en bonne santé, mourir avant. Tout simplement parce que la mort dépend des circonstances et les circonstances qui peuvent mener à la mort, elles sont juste infinies. Non, on peut mourir évidemment malade aussi, mais on peut mourir parce qu'on reçoit la foudre, mais aussi on peut mourir parce qu'on reçoit une pierre alors qu'on marche dans la montagne. On peut mourir subitement du fait d'un désordre planétaire. Non. Mais l'idée clé ici, c'est de réfléchir à l'impermanence simplement pour se rendre compte qu'on ne peut pas simplement s'installer dans cette certitude de notre immortalité là maintenant. Non. Et se rendre compte aussi que, alors, si nous sommes effectivement mortels en étant incertains du moment de notre mort, au moment de notre mort, finalement, l'aide qui nous sera nécessaire, elle sera spirituelle et nous viendra donc essentiellement des trois rares et sublimes. C'est bien pourquoi nous avons vu cette phrase hier de Shantideva qui nous dit « Il n'y a pas de certitude absolue si demain sera le début d'une nouvelle vie ou le début d'un nouveau jour. » Et à partir de ce constat, c'est se dire « Donc finalement, eh bien, il est encore plus important de me préparer à mes existences, sous-entendu futur, évidemment, plutôt que simplement penser qu'il me faut me préparer à mon jour d'après. » Non. On peut se rappeler de ces anciens maîtres Kadampa, qui sont vraiment des figures d'excellence de la pratique du Dharma, et qui avaient une telle conscience de leur impermanence, en fait, que le soir venu, la coutume voulait que quand on faisait du feu pour se chauffer, eh bien, pour garder le feu à peu près en état le lendemain matin et avoir des braises, on le recouvrait de cendres. Et donc, ces maîtres Kadampa, elles ne le faisaient pas, se disant, bah, finalement, à quoi sert de me préparer pour demain? Et de la même manière, leur bol, plutôt que de les laisser ouverts sur la table, prêts donc à recevoir de la nourriture, ils le mettaient tête bêche, en signe de leur conscience et de leur impermanence. L'idée, c'est de donc développer cette conscience, mais cette conscience qui va avec donc la conscience aussi que donc le dharma nous est essentiel au moment de notre mort. Et cette conscience, elle va aussi de pair avec le fait qu'on se rend compte que notre mort représente un moment où peut-être nous sommes là sur notre dernière couche, ou alors peut-être nous mourrons subitement, ou peut-être nous mourrons aussi entourés de nos proches, certes, mais dans ce cas-là, face à la mort, autrui ne va pas pouvoir faire grand-chose pour nous, qui sommes dans cette situation, en train de mourir, et nous-mêmes n'allons pas pouvoir faire grand-chose pour les gens qui nous entourent. Donc, prendre conscience que notre aide fondamentale, elle va se trouver dans notre pratique spirituelle. Non, si vraiment on développe cette conscience, mais cette conscience spirituelle, on pourrait dire, de notre impermanence, à chaque fois que cette pensée s'élève dans notre esprit, dit Lama, eh bien, immédiatement, un mantra peut accompagner alors ce mouvement de la pensée. Et très naturellement, plus la conscience de l'impermanence s'élève, plus notre attachement aux choses ordinaires, elle disparaît, mais d'elle-même, elle diminue d'elle-même. Voilà, alors, l'idéal même du signe de l'impermanence ou de la conscience de l'impermanence qui est née en soi, c'est être comme Karagomchung, le fameux ermite Karagomchung.
Karagomchung, c'est que tu es dans la zone. Non.
Oui, c'est l'histoire d'un méditant qui vivait dans la région du Tsang et dans une montagne qui s'appelle Kara. Et là, eh bien, il vivait dans une grotte, il méditait dans une grotte. Et devant l'entrée de sa grotte, eh bien, il y avait un buisson épineux qui poussait devant l'entrée de sa grotte.
Non.
Et chaque fois qu'il sortait de sa grotte ou alors qu'il entrait dans sa grotte, forcément, il attrapait son vêtement sur le buisson épineux. Et chaque fois qu'il passait, qu'il accrochait son vêtement sur le buisson épineux, il se disait, eh bien, il faudrait quand même que je le coupe, ce buisson. Mais quand il était à l'extérieur, il se disait, mais à quoi ça sert si finalement, en le coupant, je n'ai même pas le temps ensuite de rentrer dans ma grotte parce que peut-être je serais mort dans le laps de temps. À quoi sert de le couper? Puis une fois qu'il était dans la grotte, ensuite il ressortait de la grotte, évidemment, il se rechoppait donc son vêtement sur le buisson et se disait, il faudrait quand même que je le coupe, ce buisson épineux. Mais à ce moment-là, il se faisait cette réflexion en se disant, si je le coupe, alors que je suis là à l'extérieur de la grotte, il n'y aura peut-être plus personne qui pourra de nouveau rentrer dans la grotte. À quoi sert de couper ce buisson épineux?
Non.
Et ça dure des années et des années, mais c'est des années où il est dans cette grotte et pendant des années, il se dit qu'il faudrait qu'il coupe le buisson, il ne coupe pas le buisson. Et Geshe Potawa, qui était un autre grand érudit de l'époque, avait entendu parler de Karagomchung, il le connaissait, il se disait, il faut quand même que je lui enseigne quelques petites choses, parce qu'il ne semble pas bien érudit ou pas bien comprendre le sens. Et Geshe Potawa donc va voir Karagomchung, et Gomchung ça veut dire petit méditant. Donc, et il s'engage dans une discussion spirituelle, bien sûr. Et à ce moment-là, Geshe Potawa se dit, mais il n'est pas du tout un Gomchung, ce n'est pas un petit méditant, c'est un Gomchen, c'est un grand méditant. Il comprend vraiment qui est alors ce yogi.
Non.
Parce qu'en fait, il réalise, et c'est ça l'histoire, il réalise que en fait, cet être est devenu un accompli complet. Et alors, bien sûr, il n'a pas pris le temps de couper le buisson, mais il a pris le temps d'obtenir cet accomplissement.
Non.
Voilà, donc c'est, dès lors, on s'est mis donc à parler de Karagomchung comme étant, eh bien, le critère d'excellence, en fait, de cette réalisation de l'impermanence. Ce qui veut dire finalement que l'on comprend, et c'est certainement cela qu'on doit comprendre, qu'à ce moment-là, cette conscience est telle que ça donnait une activité ordinaire perd mais de soi-même, perd son sens. Non. Ça fait penser aussi à Sakyapendita qui est un jour invité par l'empereur de Chine et il s'y rend. Non. Et l'empereur de Chine. Non. Et il interroge Sakyapendita, l'empereur de Chine interroge Sakyapendita, et il lui dit mais qui sont par exemple au Tibet les personnes les plus riches? Y a-t-il d'ailleurs des personnes très très riches? Il dit oui, oui, on a vraiment une personne particulièrement extraordinairement riche. Ah, l'empereur est très intéressé. Bah, dites-moi un peu quelle est l'étendue de sa richesse, ses trésors, ses matières précieuses qu'il conserve. Et Sakyapendita lui répond lui, et lui dit, en fait, il n'a strictement besoin de rien. Et il dit, oui, un tel individu qui réalise un tel contentement, il est vraiment riche de tout car il n'a besoin de rien.
Non.
Et peut-être bien, dit Lama, que quand on réalise aussi cette conscience de l'impermanence, c'est aussi cela que ça amène, c'est-à-dire l'idée que finalement, de quoi avons-nous vraiment besoin? Non. Et ce qui vient avec cette conscience de l'impermanence, eh bien, c'est l'énergie, c'est la patience, c'est oui, l'énergie et la patience fondamentalement. Ensuite, nous revenons à nos incitations. La troisième, la réflexion sur l'inéluctabilité de la loi de causalité est une incitation à l'abandon des actes nuisibles.
Non.
Et là, vraiment, ça s'appuie sur le constat très fondamental que tous les êtres, mais tous, sans aucune exception, vont vouloir le bonheur, vont aimer le bonheur et vont détester le malheur.
Non.
Et le Bouddha, à ce propos, donc, de même, fondamentalement, exprime donc que, eh bien, la vertu est la cause de l'obtention du bonheur. Et donc, si l'on veut du bonheur, il nous faut établir les causes du bonheur. Et si l'on veut être libre de la souffrance, si la négativité est la cause de la souffrance, il nous faut abandonner cette négativité. En disant, de la négativité surgit ou découle la souffrance. Non. Et donc, en disant, finalement, tout se joue en termes donc, de bonheur ou de malheur, tout se joue en termes de vertu ou de non-vertu.
Non.
Avec en plus l'avantage, et on le voit exprimé ici, cette idée de miloa, c'est-à-dire vraiment quelque chose d'inéluctable, c'est-à-dire que c'est jamais perdu. Une vertu développée, elle a son sens.
Non. Non.
Non. Et ce caractère inéluctable est bien sûr valable aussi dans le sens de la négativité. Une négativité produite conduit à une expérience douloureuse, d'une manière ou d'une autre. Et cela est inéluctable. Et ce qui est aussi inéluctable, c'est que finalement, donc, ce que nous expérimentons en termes de bonheur ou de souffrance vient de nos propres actes et en aucune manière vient des actes produits par autrui. Et de la même manière, ce que nous accomplissons, ce n'est pas autrui qui peut l'expérimenter. Oui, et là, clairement, on voit ça dans les textes de pratique où l'on incite vraiment à l'abandon de toute négativité en vue de l'obtention du bonheur. Alors par contre, en termes de loi de causalité, savoir exactement quand mûrissent les actes, là, il y a incertitude. Par contre, inéluctabilité de la loi de causalité. Donc là, finalement, quand on évoque l'impermanence, comme quand on évoque cette loi de causalité, alors là, j'en dis quelques mots, dit Lama, et pas beaucoup plus, finalement, mais c'est tout un sujet, c'est d'ailleurs le sujet de ce qu'on appelle les quatre pensées fondamentales, et qui sont vraiment, bah, comme leur nom l'indique, le fondement même de la pratique spirituelle. Ça fait quand même penser à cette parole du Bouddha qui répond à la question posée sur ce que nous avons fait ou ce que nous étions dans le passé. Et il répond en disant, finalement, pour savoir ce que tu auras fait ou comment tu auras agi, regarde comment tu es maintenant. Et de la même manière, par rapport au futur, il répond en disant, on peut aussi se figurer les choses concernant nos lieux d'existence, là où nous allons, d'une certaine manière, en se rendant compte de ce que nous faisons là maintenant, dans le sens de que pensons-nous, comment parlons-nous, comment agissons-nous, quels sont donc les actes que nous procédons, que nous produisons maintenant, en vue d'un résultat qui forcément est futur aussi.
On dit que ça va, c'est...
C'est une manière donc de dire que tout se joue là dans ce présent, mais que nous sommes aussi en fait, eh bien, comme par exemple un paysan qui planterait une graine dans un champ. Oui, nous sommes celui ou celle qui plante cette vertu et qui donc verra à partir de là le bonheur expérimenté, ou qui plante une négativité et qui expérimentera aussi la conséquence douloureuse de cela. Alors là, ce qui est indiqué, on parle d'incitation. Non, là, on parle d'incitation, ce qui fait qu'il y a l'idée d'une conséquence, c'est-à-dire que la conscience qu'on a de la loi de causalité, c'est cela qui va faire que l'on va vouloir, naturellement, on pourrait dire, abandonner toute négativité et vouloir s'adonner à toute vertu. Ensuite, un peu dans le même esprit, finalement, réfléchir à ce qu'est le cycle des existences, encore une fois, le cycle des existences dans le sens ensemble des états conditionnés, nous fait aspirer alors à la liberté.
Alors, kazon tanda yuwa non hi pakpa lodo kisunga non hi re korwa tanda lakbe lamme tang se nyerwa yeda tondo sata me tsongma gaita ni sonno tongo re is yakpo ngaro lu yakpo yinsana lu yakpo ma re is no pato me no yun tsem chembranzo is parche ta dungar luks jaksa ka no non hi re te yore is
Là, ça nous fait revenir à ce que nous avons déjà évoqué hier avec cette parole de Nagarjuna, mais qui dit, eh bien, c'est vrai que si l'on regarde ces états d'existence comme ce qu'ils sont, c'est-à-dire des états conditionnés, ils sont imparfaits, ils ne représentent pas le bonheur ultime. Et quels que soient ces états, que ce soit les états d'existence défectueux, à plus juste titre, mais aussi les états d'existence comme les états humains, comme les états de Deva. Donc finalement, Nagarjuna dit, ils sont là où se rassemble tout ce qui est imparfait, tout ce qui est compliqué aussi.
Non.
En fait,
En fait,
que constatons-nous? C'est qu'ici, dit Lama, Gampopa, avec ses quatre instructions, parle des quatre idées fondamentales. C'est-à-dire la réflexion tout d'abord sur la précieuse existence humaine, la réflexion, l'incitation à la réflexion sur la mort, l'impermanence, la loi de causalité et la défectuosité du cycle des existences. Et il faut savoir que là, on le voit de manière très très courte et condensée, mais c'est un enseignement qui peut largement durer 8-9 jours. Hein, on peut y passer. Oui. On n'est pas loin de 8-9 jours, en tout cas, 16-18 sessions consacrées à la réflexion sur ces quatre
idées.
Voilà, juste savoir qu'on peut largement aller dans le détail de ces quatre énoncés, et parce qu'ils sont aussi fondamentaux.
Non.
Mais on peut faire comme nous l'avons mentionné hier aussi, dit Lama. C'est-à-dire qu'il y a ce texte de pratique qui s'appelle le texte des préliminaires à l'intérieur et sont mentionnées les quatre idées fondamentales. Donc ça veut dire qu'on l'énonce, ça dure deux phrases, et on reste sur la première idée quelques instants, on réfléchit. Bon, ça peut aussi être cette phrase de Shantideva qui est inspirante aussi et qui dit, on peut vraiment la tourner de manière très condensée et qui dit, entre demain et une nouvelle vie, rien n'est certain. Et rester sur cette idée et réfléchir. Oui, et puis on peut aussi réfléchir à cette notion d'impermanence avec ce que nous dit Nagarjuna, en se souvenant aussi que tout est fragile comme cette flamme ou lampe mise dans la tempête. Ou cette image de l'existence aussi fragile qu'une bulle d'eau. Oui, cette image de l'embarbeur avec ce vent, c'est oui, ce vent puissant qui peut l'éteindre à tout instant.
Et
Oui, ou rester sur cette idée donc de la même manière, hein, de la loi de causalité, l'inéluctabilité de la causalité, et pourquoi pas s'inspirer de cette phrase d'un sutra qu'on appelle Dedyapa, et qui dit les actes produits. Même si apparemment pendant des heures cosmiques ils ne mûrissent pas, ils ne se perdent jamais et mûriront en leur temps. Oui, il y a dans ces textes classiques souvent ces exemples tels l'arbre Anna. Et l'arbre Anna, c'est un arbre qui est très très grand. Et en fait, étonnamment, sa graine est extrêmement petite. Et la particularité, c'est que cette graine, elle peut rester très très longtemps dans le sol. Et apparemment, il ne se passe rien. Mais quand viennent toutes les causes et conditions, l'arbre se développe. Et là, alors, il prend une dimension qui est propre à cet arbre, et qui est une illustration aussi de toutes ces causes et conditions qui vont, à partir d'une chose infime, donner des résultats considérables. Et cette réflexion qu'on peut nourrir aussi de la même manière sur la défectuosité du cycle des existences et ces trois formes de souffrance qui font que ce ne sont pas des états idéaux. En évoquant la première déjà, cette première forme de souffrance, c'est celle qui pénètre et qui embrasse tout ce qui est composé et qui n'est rien d'autre finalement, dit Lama, que l'ignorance fondamentale et qui fait que lorsqu'il y en a, eh bien il y a de la souffrance. Oui, et en général on dit qu'elle est comme le cheveu qu'on met dans la paume de la main, on ne la ressent pas.
Non,
oui, parce que tout simplement, imaginons qu'on mette un cil, un poil dans la paume de notre main, on ne le ressent pas physiquement, on ne sait pas qu'il est là.
Non.
Et pour illustrer le fait que pour nous, être ordinaire, cette forme-là, on pourrait dire d'imperfection ou de souffrance, c'est-à-dire cette ignorance fondamentale, on n'aperçoit carrément pas. Elle est vraiment comme un cil qu'on aurait posé dans la paume de notre main. Alors que pour un arya, ça veut dire un être, on va dire, éveillé ou lucide, eh bien, pour lui, ou pour elle, évidemment, cet individu, eh bien, c'est comme un cil qu'il aurait mis dans son œil. Oui, il y a une autre image qui est utilisée, c'est l'image de la meule de foin, mais une meule de foin particulière parce que on imagine dans cette image qu'il y a quelques braises qui sont recouvertes par une grosse meule de foin. Alors les braises, ben, elles ne bougent pas beaucoup au départ. Et puis la meule de foin, elle est parfumée, elle est confortable. Alors quand quelqu'un arrive et qu'il voit cette meule de foin, il a marché beaucoup, il se dit, je vais me reposer tranquille sur la meule de foin.
Non.
Mais bon, le feu.
Tu vas s'inquiéter.
Non, mais voilà, mais le feu fait son œuvre. Donc, et le vent aussi. C'est-à-dire qu'il va souffler sur ses braises, naturellement, cela va s'embraser tranquillement, mais pendant ce temps-là, eh bien, l'individu, là, pris par la douceur et la chaleur de cette meule de foin, s'est endormi confortablement. Et donc, quand tout brûle, eh bien, il est dans le profond sommeil, et il est consumé, bien sûr, on le voit dans cette image, et qui est une manière donc d'illustrer, on pourrait dire, ce côté caché de cette imperfection qui ne saute pas aux yeux.
Non.
Qui est une manière d'illustrer aussi, les lamas, la souffrance du changement, ce qu'on appelle la souffrance du changement. La souffrance du changement, elle apparaît souvent comme finalement des situations plaisantes, mais on ne voit pas que du seul fait du changement, cela va apporter du déplaisir. Non. Et donc, est lié à cette deuxième forme du changement. La deuxième forme de souffrance. Non. Oui, et là, il y a d'autres images qu'en général on utilise. En général, c'est l'image d'une réunion agréable. Les gens sont contents, ils se retrouvent, ils mangent, ils passent un bon temps ensemble. Non. Et puis c'est une vraie fête, donc on mange de bonne viande, hein, selon les caractéristiques tibétaines, on boit du bon alcool d'orge ou n'importe quoi d'autre, et on danse et on chante.
Non.
Non. Et dans cette image qu'on utilise, c'est pour dire que, tout est juste parfait, semble-t-il. Et en fait, évidemment, ça ne l'est pas totalement, étant donné que l'alcool fait son effet, ou alors, imaginons, un ennemi vient à l'extérieur profiter de ce moment de quiétude pour nous attaquer, ou à l'intérieur, les convives, eh bien, ayant abusé de l'alcool d'orge, eh bien, finissent par se chamailler et même, pourquoi pas, s'entretuer. Donc, l'idée, c'est que l'instant d'avant, tout était parfaitement idéal. L'instant d'après, tout s'est transformé.
Non.
Pour dire qu'il peut y avoir des situations où l'instant d'avant, il n'y avait que de la place pour le rire, et l'instant d'après, il n'y a de la place que pour les larmes.
Non.
Et la troisième forme d'imperfection, c'est ce que nous expérimentons en général comme de la souffrance, que l'on nomme souffrance.
Et
pour l'illustrer, c'est les situations où l'on a l'impression de ne pas se sortir d'une difficulté alors qu'une autre nous tombe dessus. Non. On peut imaginer une troupe de brigands qui vient, qui nous dérobe tous nos biens.
Non.
Et puis, on peut l'illustrer par, déjà cette situation qui est franchement pas confortable. Et après, on se dit, on va partir en expédition punitive, dont tout le monde part pour se venger, évidemment, récupérer ses biens, et on perd. Et donc, il y a encore des personnes qui meurent dans cette altercation.
Non.
Ou alors, un deuil Hier, notre père meurt, on est à peine sorti de ce deuil, évidemment, le lendemain, c'est notre mère qui meurt. Donc on a l'impression d'être d'une vague derrière l'autre. Ou alors, hier, c'était notre enfant, aujourd'hui, c'est notre ami. Bref, l'impression d'une vague. C'est pour ça qu'on appelle cela Dungel Gedungel, c'est-à-dire souffrance de la souffrance, dans le sens une espèce de cumul des ennuis ou des imperfections. Et dans la fameuse phrase, pourquoi le lama illustre tout cela? Dans la fameuse phrase du texte donc des pratiques préliminaires, il est dit ces situations où l'on est tourmenté à travers les trois formes d'imperfection ou de souffrance. Et là, l'idée clé derrière, c'est dire que tout être qui vit dans un état conditionné au sein du cycle des existences rencontre d'une manière ou d'une autre ces situations. Et alors, d'autant plus clairement pour la première forme, celle qui nous passe complètement hors des yeux et qui est l'ignorance fondamentale. Alors, après, ce qu'on appelle le cumul des souffrances, ça c'est très caractéristique des états d'existence défavorables, où l'être ne se sort pas d'une situation difficile. Non. Les souffrances du changement, qui se présentent en fait sous la forme du bonheur, ça c'est quelque chose qui est très typique de nos états d'existence, comme des autres états d'existence favorables. Mais l'idée, bien sûr, c'est qu'en fait, prendre conscience que les états conditionnés sont marqués par ces formes d'imperfection. Oui, parce que non, voilà, dans ce
seul type qui aime gâton tatang, ça ta devate ce ona. Semki c'est les détenus.
La réelle. Oui, parce que la suite de cette phrase dans le, toujours ce même texte des pratiques préliminaires.
Tanta c'est les deux garon chano ka go bata ki chano go ya ta kari yo na tsoma te gi se na. Yagmar wa.
La réelle. Oui, c'est l'image de, du boucher, en fait, de celui qui nous mène à l'exécution, ou plutôt du banquet offert par celui qui nous mène à l'exécution. Et pourquoi ? Parce que, en fait, c'est pour dire le côté tristement ironique de la situation. C'est-à-dire le boucher ou le bourreau, eh bien, tout à coup, il présente des choses pour nous faire plaisir, mais comment pourrions-nous être heureux de ce qu'il nous présente, alors que son intention, finalement, c'est de nous couper la tête. Donc on utilise cette image pour dire, c'est le côté presque pervers de ces souffrances qui se présentent sous un jour favorable, mais qui finalement sont la cause de nos
nuisances.
Non, c'est sur cette base que l'on peut ensuite donc dire qu'il n'y a pas d'utilité à s'attacher, mais à s'attacher dans le sens de manière puissante et ferme à tout ce que l'on croit pouvoir nous donner du bonheur définitif, que ce soit les lieux, que ce soit les richesses, que ce soit les liens, les amitiés, etc.
Non.
Alors là, le point difficile, c'est qu'il ne faut pas mal comprendre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'affection possible, évidemment. Mais ne pas confondre entre l'affection et la bonté et l'attachement, ce qui n'a rien à voir.
Non.
Non. Donc tout ce qui est ce qu'on appelle en tibétain tsewa, c'est-à-dire c'est l'amour, c'est l'affection, mais dans le sens de l'agapé, on pourrait dire, eh bien, tout durant notre vivant, nous avons besoin de cela, de cette bienveillance. Mais l'idée clé, c'est que l'attachement, lui, ne nous donne rien de bon. Il n'y a pas d'utilité à l'attachement. Donc voilà, finalement, c'est une réflexion sur cela. C'est pourquoi, dans toujours ce fameux texte, eh bien, cette phrase se conclut en disant, donc, je tranche les liens d'attachement qui sont directement liés à la souffrance, de manière à pouvoir obtenir la libération. Voilà, l'instruction d'après, et là on entre dans l'esprit d'éveil, cette réflexion, alors cette fois-ci sur, pas justement, les souffrances des êtres vivants prisonniers des états cycliques, c'est-à-dire des états conditionnés, cette réflexion, elle est une incitation à cultiver l'esprit d'éveil, c'est-à-dire la bienveillance, l'amour, la compassion.
Non.
Ensuite, pensez à la façon dont les êtres sensibles, eh bien, finalement, sont plongés dans l'illusion, dans le sens, voient les choses au sens contraire et agissent du coup à l'encontre de leur visée, eh bien, cela aussi, c'est une incitation à l'amour, à la compassion. Et à la réflexion sur le sens des enseignements. Non. Et ensuite, la réflexion sur la difficulté, c'est-à-dire une autre difficulté, d'abandonner toutes les tendances inconscientes qui sont les nôtres, qui nous maintiennent dans les perceptions illusoires, eh bien, est une incitation à la pratique de la méditation. Et ensuite, la réflexion sur le fait que, donc, dans ces temps marqués par ces différentes dégénérescences dont il a été question déjà hier, et donc les émotions perturbatrices sont alors très puissantes, très fortes, c'est une incitation à l'emploi des antidotes, c'est-à-dire des attitudes antidotes qui vont nous permettre de nous défaire, c'est ce qui est sous-entendu, des émotions perturbatrices. Je ne pense pas, dit Lama, qu'il y ait besoin de rappeler ces cinq dégénérescences, nous les avons évoquées hier. Là, ici, il y a vraiment, Lama souligne, en tibétain, on trouve nyum. Alors, nyumonpa, c'est des émotions perturbatrices, mais c'est vraiment les afflictions mentales, hein, c'est pas une émotion comme ça. C'est vraiment les afflictions mentales. Doa, c'est vraiment puissante, forte. Et c'est un signe des temps aussi. Donc, c'est pourquoi on le met en rapport. Dans ce cas-là, ça devient une incitation, d'autant plus à l'emploi des attitudes antidotes qui vont nous permettre de nous défaire de cela.
Rong rend les dignes.
La forme. Oui, bah, par exemple, pour la colère, pour la haine, c'est s'entraîner à l'échange avec autrui, hein, qui va bien sûr à l'encontre complètement de la haine, mais qui est vraiment cet échange dans le sens où on ne perd mentalement, bah, voilà, cet échange de sort, on pourrait dire, avec autrui. Hein. On se met à la place de l'autre, pour dire ça simplement. Alors là, bon, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais en très bref. L'antidote à l'égard de l'orgueil, pour, oui, face à l'orgueil, c'est établir le principe d'égalité avec autrui. Et de nouveau, c'est tout un entraînement. Non. Ça va complètement avec le développement de l'amour et de la compassion, bien sûr.
Alors,
autre réflexion, toujours nourrie à l'égard de ces temps, ces époques résiduelles ou donc marquées par les dégénérescences, où les circonstances adverses sont nombreuses, cela devient en fait une incitation à la patience. Non. Ensuite, la pensée que l'on peut épuiser sa vie à errer de distraction en distraction, eh bien, est une incitation à la diligence. Non, voilà. Donc, là, on revient sur cette instruction. Cette pensée, donc cette prise de conscience que l'on peut voir sa vie s'épuiser ainsi de distraction en distraction, eh bien, elle est une incitation à l'énergie, une incitation à la diligence. Non, et telles sont donc les 10 incitations. Est-ce que ça va? Oui? Il y a un éclaircissement? Oui?
C'est le mot diligence.
Oui, oui, oui. Ta tsundu, c'est un ta tsundu qui tunda, t'en es quand même.
Tsundu, c'est un peu de temps. Geva, tu veux dire, câble, le matin, mettre geva.
Non. Ici, le terme est employé pour dire l'enthousiasme, pour dire l'énergie avec laquelle nous allons accomplir une vertu et donc, du coup, sans aucune difficulté. Mais c'est aussi vu comme une qualité qui va nous permettre de porter à son terme, en fait, tout type d'action, quelle qu'elle soit. Hein, c'est l'énergie nécessaire. On peut presque dire que, eh bien, en fait, l'énergie est plus importante que la connaissance. Alors, bien sûr, les deux doivent se combiner, parce que s'il n'y a que de la connaissance ou de la sagesse, on va prendre l'image, par exemple, d'un, imaginons de nouveau, pourquoi pas une meule de foin, mais qui s'embrase, ça produit un grand feu, mais qui reste peu longtemps. Alors que l'énergie, la qualité de l'énergie, c'est celle qui peut réduire en poussière une montagne.
Non,
voilà, ben ça me fait tout de suite penser, dit Lama, à l'histoire d'Asanga, Asanga qui pratiquait Maitreya. Et l'histoire d'Asanga, ben, elle nous dit quand même que c'est une personne qui, pendant mais des années, s'adonne à la pratique intense dans une grotte avec l'intention claire de ne pas sortir de sa grotte tant qu'il n'aura pas réalisé le Bodhisattva Maitreya, donc personnification de l'amour. Rien ne se passe. Bien sûr, dans l'histoire, ça finit par se passer. Mais disons, la nécessité, c'est cette nécessité de l'amour, de la compassion et donc de cette énergie. Donc pour Asanga, dans un premier temps, il pratique, mais vraiment très intense. Rien ne se passe, il se dit, bon, ça vaut vraiment pas la peine. Donc il part de son ermitage, il abandonne. Non. Et puis il est là en chemin, tout à coup il arrive, puis il voit une scène comme ça, il voit une grande montagne, puis il voit un homme qui est en train de frotter la montagne avec une petite étoffe.
Tu crains, c'est
non. Alors Asanga le voit, il fait quoi? Il lui pose la question, mais que fais-tu? Et puis il lui dit, en fait, bon, c'est simple, là il y a ma maison, et la montagne, elle m'empêche d'avoir du soleil, parce que ça me fait de l'ombre, donc j'efface la montagne. Mais Asanga lui dit, non, mais ça ne va pas marcher, tu ne peux pas effacer la montagne. Et l'autre ne dévie pas, il se dit, mais si, pas de problème, avec un peu de patience, je vais finir par pouvoir effacer la montagne. Et il lui dit, tout va dépendre de ma propre, de mon énergie, en fait.
Alors,
cette histoire, elle raconte bien, à ce moment-là, pour Asanga, c'est une vraie prise de conscience. Et il se dit, oh là, d'accord, donc peut-être finalement, j'ai un problème avec l'énergie, ma passion finalement. Et il repart dans sa grotte. Il médite de nouveau, des années. Hein. Et puis, rien ne se passe. Il se dit, non, mais vraiment, ça n'est pas. Bon, et donc il repart. Non, alors voilà, il part, voilà, et puis il arrive dans un paysage, il arrive à un endroit où il voit il y a un grand lac, et il voit là, il y a un homme qui est avec une carapace de tortue et qui est en train de prendre l'eau du lac, de la mettre à l'extérieur du lac. Il lui dit, mais tu fais quoi là? Il dit, j'assèche le lac.
Comme tu dis mal, là.
Mais tu vas pas assécher le lac avec ta carapace de tortue.
Il lui dit, mais si, pas de
problème. Si on a un peu de patience et de persévérance, surtout, bien sûr qu'on peut assécher le lac.
Et
il se dit, ah non, mais c'est dingue. Donc, peut-être j'ai pas persévéré assez. Donc, il repart dans sa grotte. De nouveau, il médite des années. Il ne le rencontre pas, maître. Il a dit, ça ne vaut vraiment pas la peine. Et il repart de sa grotte. Non. Voilà, il marche comme ça, puis tout à coup, sur le chemin, il voit un chien qui n'est même pas mort, mais la moitié du chien, elle est complètement couverte de vermine, il est vraiment infirme, mais l'autre partie du corps est à peu près ok, mais bon, voilà, il y a vraiment des vermines partout. Et là, Asanga est pris. Vraiment, il est pris par une immense compassion, immédiatement.
Non.
Il se dit, mais comment faire pour essayer de soigner ce chien qui est vraiment dans ces piteux états? Et il réfléchit, il se dit, si j'essaye de nettoyer les plaies avec mes doigts, je risque fort de lui faire du mal. Je peux aussi faire du mal à ces asticots qui grouillent dans ses plaies. Donc finalement, le seul moyen, c'est d'y aller avec la langue. Et donc, il se baisse
avec
ça. Et donc, il ferme les yeux parce que c'est vraiment répugnant. Et donc, il ferme les yeux, il tire la langue et il s'apprête à nettoyer les plaies. Et paf, il tombe sur le sol. Il n'y a même pas d'insectes, il n'y a rien. Il tombe sur le sol.
Mais, dans le
Non. Et là, il ouvre les yeux et devant lui, le Bodhisattva Maitreya, personnification de l'amour. Et il lui dit, mais comment se fait-il que je vous rencontre maintenant alors que j'ai passé tant d'années à vous pratiquer? Il lui dit, mais en fait, dès le premier jour, j'étais avec toi. Il n'y a pas un instant où on était séparés. Mais tu ne m'as pas vu, car tes voiles étaient trop importants. De temps en temps, tu m'as vu peut-être sous la forme de quelqu'un qui était en train d'essuyer une montagne, ou alors sous la forme de quelqu'un qui était en train de vouloir vider un lac avec une carapace de tortue. Mais là aujourd'hui, eh bien, la compassion que tu as ressentie, elle a consumé tes derniers voiles. Et de ce fait, eh bien, tu me contemples.
Non.
Voilà, donc, bien sûr, c'est une histoire qui illustre magnifiquement à cette vertu même de l'énergie et donc de l'effort aussi que nous sommes capables de produire et qui est nécessaire pour, dans l'accomplissement de la vertu, évidemment. C'est aussi nécessaire, dit Lama, parce que finalement, on n'est jamais totalement libre des circonstances. Et face aux circonstances, il nous faut avoir recours à l'énergie pour persévérer dans ce que nous accomplissons. Voilà, et c'est vraiment c'est cette qualité qui nous permet d'aller au bout des choses, qui nous permet d'aller au terme de ce que nous
accomplissons.
En fait, si on manque de cette qualité, même si on veut recevoir le dharma et que l'on se met dans la position de le recevoir, on s'endort. Ou alors, on a mal aux genoux. Mais on a besoin de patience. On a besoin de patience, on a besoin d'énergie. Voilà, et donc, bien sûr, pendant peut-être une année, tout se passe très très bien, puis l'année d'après, ben, c'est plus pareil. Et donc, bien sûr, parce que l'esprit change. Donc, voilà, c'est pourquoi nous avons besoin de cette énergie. Non. Voilà, et donc, nous, dans le domaine de la pratique spirituelle, nous avons vraiment besoin de cette qualité d'énergie et de cette qualité de patience, parce que nous sommes vraiment comme un pèlerin qui part loin. C'est vraiment comme partir à pied à Lhasa pour aller rencontrer le Dioro. Et de temps en temps, dans un tel périple spirituel, le chemin est très dur, très difficile. Et de temps en temps, vraiment, c'est presque comme si on ne peut pas faire le chemin, c'est difficile. Mais si l'on est ce pèlerin qui veut se rendre quelque part, ben, on va trouver une méthode, on va trouver un moyen, on va se faufiler. De temps en temps, le temps, il fait tellement froid que c'est insupportable. Mais ben, on trouve quand même le moyen d'avancer. De temps en temps, il fait terriblement chaud. Et c'est insupportable aussi quand il fait terriblement chaud. Mais on avance quand même. De temps en temps, on arrive aussi dans des endroits qui sont extraordinaires, qui sont beaux, qui sont agréables, et à tel point qu'on a envie d'y rester. Mais on ne doit pas y
rester.
Mais on peut pas y rester vu qu'on chemine et qu'on est un pèlerin. Donc il faut continuer. Donc voilà, la manière dont nous faisons notre chemin jusqu'à l'éveil, ben, elle doit vraiment se comprendre de cette manière. Et alors, on est certain d'arriver. Mais si, au contraire, chaque fois que nous arrivons dans un endroit agréable, c'est tellement agréable que l'on s'y attache, ou alors on arrive dans un endroit désagréable et on se dit « alors donc, je rebrouche chemin », là, dans ce cas, on ne fait pas le chemin. Mais c'est normal, parce que nous n'avons pas acquis cette maîtrise ou cette qualité de l'éveil encore. Et donc, l'esprit change tout le temps et constamment. Et c'est face à ces changements naturels en l'esprit qu'il nous faut donc ces qualités de patience, cette persévérance. Et il suffit d'ailleurs, en plus, que l'on veuille un fruit rapidement obtenu pour que ça change vite. Donc vraiment, on doit envisager ce chemin vers l'éveil, dit Lama, en étant complètement détaché de l'idée même d'obtenir un fruit ou de ne pas obtenir un fruit. Qu'on l'obtienne, qu'on ne l'obtienne pas, là n'est pas la question. Ce dont il est question, c'est de faire le chemin. Voilà, vous comprenez le sens ? Voilà, c'est ce qu'il nous faut. Voilà, alors ensuite on aborde les 10 risques. Hein. Et là, si l'intelligence brillante s'accompagne d'une foi vacillante, on risque de sombrer dans la rhétorique creuse. Voilà, donc ici, bon, on voit bien ce qui est dit. C'est-à-dire qu'on peut certes avoir une grande intelligence brillante, mais si notre foi finalement est très vacillante, on n'accomplit pas grand-chose non plus. Non, ben, c'est une manière de dire que l'accomplissement du sens, il ne se fait pas juste par la bouche. Mais alors, aussi le contraire. C'est-à-dire que si la foi solide s'accompagne d'une intelligence, elle, déficiente ou défaillante, on risque de s'obstiner dans un dogmatisme étroit. Donc ici, il y a un terme « ante » pour dire quelque chose de très... On est rivé à une chose, quoi. C'est vraiment très puissant comme attachement.
« Niru chela » c'est « niru » c'est « nata » « zoba » c'est
« la so »«
Niru chela »« donga mena »« kyondan korsar »« kyobayo »« kyobres »
Non. Autre risque, si l'on a une grande ténacité, parce que là le terme de Ningru, c'est littéralement l'os du cœur, c'est-à-dire une espèce de grande puissance ténacité. Oui, de force de l'esprit aussi, mais que l'on manque de directives dans le sens d'instruction libératrice, eh bien, on risque aussi de commettre des fautes ou de sombrer dans l'erreur. C'est-à-dire, en fait, littéralement, c'est prendre des chemins de traverse. Voilà, c'est pour dire que, bon, certes, on a besoin de cette patience et de cette diligence dont on parlait avant, mais il nous faut aussi qu'elle soit éclairée par des instructions libératrices. On peut se tromper de chemin, on peut aussi les mettre au service d'un chemin erroné ou les mettre au service d'un chemin de traverse. Ensuite, autre risque, qu'on n'a pas complètement dissipé par l'écoute et la réflexion d'abord. Les doutes qu'on a, les incertitudes, et bien la méditation, elle risque fort de n'être que le développement d'une obscurité mentale aussi. C'est ok ça? Oui, non? L'idée ici, c'est quand on parle d'obscurité, ça veut dire que notre méditation, elle doit être claire. Il doit y avoir de la clarté. Et cette clarté, elle vient de l'écoute et de la réflexion. L'idée, en fait, c'est pour prendre garde à ce que notre méditation ne devienne pas une espèce de vide d'absence, hein, du genre où on voit rien du tout, dans une espèce d'absence de soi. C'est pas du tout ça. Il doit y avoir de la clarté. La méditation, il doit y avoir de la clarté dans la méditation.
Non.
Oui, d'abord, il y a vraiment cette idée d'écoute. Et pourquoi l'écoute? Bah parce qu'en fait, c'est vraiment un moment de prise de conscience de choses dont on n'avait même pas songé. Non. Ensuite, donc, c'est réfléchir à ces choses tout à fait nouvelles pour nous. Et puis donc, poser des questions, clarifier, vraiment. Non, mais il faut se rendre compte que, d'abord, la nécessité de réfléchir à une chose, eh bien, découle du fait même d'avoir entendu, et puis la possibilité de réflexion, elle découle aussi d'avoir entendu. Donc, vraiment, l'écoute est fondamentale pour ensuite nourrir la réflexion et trouver des raisons à cette réflexion. Non, c'est pourquoi on parle de sagesse. C'est-à-dire vraiment, écouter est une sagesse. C'est pas juste j'ai entendu. C'est une vraie sagesse qu'on développe et qui va nous permettre alors de développer une vraie sagesse qui est celle de la réflexion.
Non.
Au départ, vraiment, si ayant entendu une chose, on essaie d'y réfléchir, on ne voit même pas à quoi on peut réfléchir par rapport à cette chose. C'est-à-dire que on a certes entendu quelque chose, mais ça ne nous dit rien. Ça ne nous dit rien, comme si on nous parlait d'un pays où on n'y a jamais mis les pieds, on ne voit même pas de quoi on nous cause.
Tenez, tu vas te dire, tu as rien de qui diablo là. Tu as rien de qui diablo là, là tu y aurais. Là tu qui diablo pas son, non pas tu y aurais, tu as que y aurais.
Non.
Tenez, tu as le métro y aurais, l'enga y aurais. Tu as chinois tout mon pour l'enga y aurais. Là, là, là.
Non. Mais si ensuite.
C'est con, hein.
Et si ensuite on rentre avec une écoute plus active, on pourrait dire, dans la prise de conscience de ce qui nous est dit, qui est en fait la description d'un paysage, en clair, si on prend cette image, en nous disant il y a une montagne, puis derrière une montagne, ben là il y a un col, puis si tu passes le col, ben là tu arrives dans une vallée, puis quand tu arrives dans la vallée, là il y a un lac, et puis là il y a une vallée qui, où se développent des arbres fruitiers, il y a des, il y a de quoi te servir de fruits, etc.
Tenez, alors, on aime maintenant tant d'autres, tant d'autres animaux,
non? Non.
Tant que tu vas te le dire, si tu as une autre, quand tu es dans ce débarré, marre, tu as dit quoi?
Non. Et là, eh ben, même si on n'a jamais mis les pieds dans ce pays, on se dit, mais dis donc, ça a l'air sympa cet endroit. Et on a envie d'aller y mettre les pieds. Et donc, c'est ça aussi l'exercice de la réflexion.
Tant que tu es le tenu, on te le monte, te le monte, tu es là.
Voilà, et là, eh bien, forcément, que cette réflexion, on voit qu'elle va s'étendre de plus en plus, de plus en plus. C'est un peu comme si on entrait plus encore avant dans ce paysage et qu'on se figure les choses de manière plus en plus riche et détaillée. Donc, tout cela, c'est forcément la prise de connaissance du paysage de l'esprit, hein, c'est pas autre chose. Et donc, ça veut dire qu'ensuite, quand on médite, eh bien, on est beaucoup plus au clair. Et ça, c'est la vertu de la sagesse de la réflexion qui nous permet d'aborder la méditation sur l'esprit en pleine connaissance. Non. Voilà. Et puis, donc, c'est cette réflexion qui, de nouveau, bah, nous permet de nous figurer les choses dans le sens où on finit par comprendre, eh bien, quelles sont les différences qui peuvent s'établir dans les démarches, dans les chemins, ce qui est une vertu, pourquoi c'est une vertu, pourquoi on parlera de cela comme d'une négativité, en quoi c'est une négativité, comment cela s'enchaîne, etc. Tout cela finit par prendre sens.
Tenez. Non.
Et puis ensuite, ben, on peut vraiment méditer, et méditer en connaissance de cause, et donc développer la sagesse de la méditation, et qui est un vrai acquis.
Non.
On pourrait dire qu'on est comme un paysan extraordinairement habile, qui sait vraiment comment planter la graine, qui est donc efficace dans cette façon de faire. Mais vraiment, je pense que l'analogie avec la nourriture est tout à fait pertinente, dit Lama, parce que imaginons qu'on mange de la tsampa, c'est-à-dire de la farine d'orge grillée, et puis que, bon, finalement, cette farine d'orge grillée, on la mange, mais on se dit, bon, c'est quoi? Bon, oui, c'est de la farine d'orge grillée, ça vient d'où? Ben, de l'orge. Mais finalement, on n'a pas bien pris conscience de tous les processus qu'il faut pour ça. On se dit, bon, ben voilà, ben, je prends de l'orge, je le jette sur la terre, donc voilà, je vais avoir de la tsampa.
Non.
Et puis, bien sûr, on peut même s'imaginer jeter de l'orge alors qu'on n'est même pas capable de reconnaître l'orge d'une autre graine. Donc, on jette n'importe quelle graine.
Non. tenso so 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 mon kande tab gore kande te tab gire teni te ha ko sa de te dam na choma so so ba no ki teni jab de tab gore pe
non non et finalement on voit bien que tout cela découle d'une vraie connaissance. Il faut connaître les graines, il faut connaître le moment juste où on plante les graines, savoir comment les planter, dans quel terrain, comment, etc. Et si vraiment on est conscient de tout le processus, alors oui, bien sûr, on peut obtenir une belle récolte. Mais c'est vraiment très analogue à ces qualités dont il est question ici.
C'est
OK ? Oui ? Oui ?
L'écoute, la réflexion, la communication, et l'amour et la compassion. Mm-hmm. C'est un super jardinier
oui. Sélectif, bien sûr. Donc, comment faire le lien en fait entre écoute, réflexion, et méditation et l'amour et la compassion? Bien, en fait, on peut largement l'étendre à tous les sujets, et pas seulement l'amour et la compassion, parce que finalement, que ce soit l'amour et la compassion, que ce soit la réflexion sur les quatre idées fondamentales, que ce soit le développement de toutes les qualités éveillées à travers les différentes, ce qu'on appelle les paramitas, donc la générosité, la patience, etc. Tout cela va toujours s'éclairer sur la base de l'écoute et sur la base de la réflexion. Et dans ce cas-là, eh bien, la connaissance qu'est la nôtre qui découle de ces processus d'écoute et de réflexion vont nous permettre d'aborder tous ces sujets et de les mener à bien. Non. Et vraiment revenir sur le fondamental qui est le constat que tous les êtres, mais vraiment tous les êtres, sans aucune exception, veulent le bonheur, veulent éviter la souffrance. Non. Tous veulent satisfaire leur jeu. Et tout ce qui va finalement mener à la souffrance, eh bien, le paradoxe, c'est tout ce qui est fondé sur la saisie de ce jeu. Et c'est le problème de ce paradoxe. C'est-à-dire que, et c'est pourquoi il y a cette fameuse phrase qui nous dit que tout ce qui est fondé sur la conservation, l'obtention du bonheur stricto sensus pour ce jeu, c'est ce qui mène à la souffrance. Parce qu'en fait, sans s'en rendre compte, c'est ce qui va fonder en soi ou établir en soi la possibilité du développement de toutes les formes d'attachement, etc., et qui nous rend malheureux. Non. Et à ce moment-là, eh bien, on organise, on pourrait dire, nos perceptions en termes d'attachement pour tout ce qui est tout. Qui va dans l'autre sens. Et donc, on organise aussi, du coup, notre aversion en rapport à cette saisie du soi. Et on se met à développer des actes en rapport à cette perception. En fait, par rapport à cela, qu'est-ce que l'amour et la compassion? Eh bien, on pourrait dire que c'est ne pas se tromper, mais absolument pas se tromper sur ce qui est la cause de l'obtention du bonheur.
Quand les sénats, deva tomji de kani yongarai semjin yin.
Et c'est vraiment revenir, alors, de même à ce fondamental, mais présenté d'une autre manière en disant, finalement, tout ce qui va être vraie cause du bonheur, c'est tout ce qui est orienté vers le bien d'autrui. Non, et vraiment, l'amour et la compassion, elle est vue, et c'est pas la moindre des choses, et vraiment, elle est vue comme le chemin par excellence qui va mener à l'obtention de l'éveil. C'est, on pourrait dire, la condition fondamentale. C'est ok? Voilà. Ensuite, l'autre risque. Si alors que la compréhension, donc notre compréhension et notre réalisation, parce qu'en plus il y a ces deux termes ici, est toute fraîche et que l'on ne la met pas en pratique, eh bien l'on risque, croyant tout savoir, de fermer son esprit à la connaissance du Dharma. Non. Ici, on utilise le terme de koa pour dire vraiment la compréhension. Et c'est complètement parent lié. Oui, c'est vraiment la compréhension aussi de cette distinction donc profonde entre vertu et non-vertu.
Non.
Et ici
Non,
voilà, donc là, le cas de figure qui est énoncé, c'est imaginer que l'on sait, que l'on a compris, que l'on a réalisé, et d'en rester vraiment en fait à un à peu près tout en s'imaginant qu'on a compris. Et du coup, ben, finalement, la mise en œuvre et la mise en pratique, on ne voit pas bien à quoi elle nous servirait. Là, le terme qui est employé, c'est trepo. Et trepo, alors là, il n'y a pas de traduction littérale qui est donnée. Non, c'est très compliqué parce que c'est vraiment un mot qui désigne le fait qu'une personne qui est absolument convaincue de savoir et de connaître, elle devient complètement imperméable au dharma. Alors que, dit Lama, une personne qui aurait développer des actes extraordinairement négats, ben finalement, le dharma peut quand même agir sur elle. Alors qu'une personne convaincue d'elle-même, dans une absolue suffisance, il est très difficile de pouvoir changer.
C'est le pétu, Yori.
Non, il y a un exemple pour ça.
Non,
alors c'est un exemple, il va falloir un peu expliquer.
Non.
Non. Alors, parce qu'on n'utilise plus trop ça chez nous, c'est du cuir de yak. Mais du cuir de vache, ça fait l'affaire aussi. Et donc, un bon cuir, eh bien, il faut le tanner correctement. Et puis ensuite, donc on le met dans l'eau. Et puis après, on va l'enduire d'une matière, par exemple du beurre. Et cette peau, elle devient d'une souplesse extraordinaire.
Non,
au Tibet, en tout cas, on faisait comme ça. Hein, pour rendre une peau très, très souple,
on lui disait...
Non.
Non. nyesho satenje.
No.
Markedo nyesho satenje te me yakno la. Markedo tam te tsembo ja.
No.
Tende tobo zogreba.
La rela.
Tende tobo che ne tene. Lo re re satenje le tem ko de ja ja na sa tomo re keche.
No.
Hina pagba te mark sa rogre.
La rela.
Tende Then you then Marzo and Pagbati, Chola Bona Ponya Yomar, go Mark San, Chomoretta.
Voilà. Et donc l'exemple est très pertinent au Tibet parce que, bon, ben voilà, on utilisait en tout cas dans le temps maintenant de moins en moins, mais on utilisait avant des pots de yak pour y mettre le beurre. Et le beurre, c'était des grosses mottes de beurre du genre 20, en tout cas, kilos de beurre. Donc, ce que l'on faisait, c'est qu'on utilisait cette peau de yak, on la cousait sur la motte de beurre, et ensuite on pouvait la garder comme ça pendant des années. Vu que le temps, disons, la condition atmosphérique très sec et voire même froid, donc on pouvait garder le beurre pendant très longtemps. Par contre, pendant tout ce temps-là, au fur et à mesure, eh bien, la peau, c'était peau de yak, cuir, donc, c'était complètement imprégné de beurre. Ce qui fait qu'une fois qu'on avait totalement consommé le beurre et qu'il restait que la peau, cette peau était tellement imbibée qu'on ne pouvait plus rien en faire. C'est-à-dire que la mettre dans l'eau ne servait à rien, elle ne perdait jamais sa forme.
Then you choke me to the Marco Gojon Mark to the Marco Mark 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 to the Gumaris.
Là, ça va. Voilà. Et donc, pourquoi? Bah, parce que les marchands, ils avaient trimballé ces mottes de beurre emballées dans des cuirs de yak, ben, sur des grandes distances, chauffées par le soleil, gelées par les froids de la nuit, etc. Bref. C'était tellement imbibé, tellement travaillé, on pourrait dire, qu'ensuite, on ne pouvait rien en faire. Donc, d'où le dicton qui dit que une peau, et c'est le paradoxe, justement. C'est-à-dire qu'une peau, pour l'assouplir, on a besoin de beurre, mais une peau imbibée de beurre, plus rien ne l'assouplit.
Oh, t'es non, j'ai pété, non, j'ai dit qui tu dis tu t'es.
Non.
Tu dis tu me dis.
La seule. Donc, on va utiliser ce terme pour dire, ben, même une personne emplie de négativité, il y a toujours quelque chose qui peut être fait et le dharma vient là pour l'assouplir.
Il y a
des tas d'histoires. Il y a par exemple l'histoire édifiante d'Angulimala, hein, qui est une ancienne histoire du temps du Bouddha, où il a, Angulimala, tué 999 personnes. Bon, normalement, là, la négativité est totale. Eh bien, en toute fin, il réalise tout un processus, mais il finit par se purifier complètement de ses actes négatifs et de réaliser l'état d'arahat.
Donc,
type du cycle des existences.
Milarepa,
il se venge de son oncle et puis quand même, il tue 35 personnes en tout.
Et donc,
il fait ensuite tout ce processus de purification aussi de ses propres négativités et finit par devenir, connu jusque, pour l'empereur de Chine même, comme le plus grand des accomplis. Donc, pour dire que ce terme est employé pour dire que ben même si nous avons toutes ces négativités qui peuvent être gigantesques, il est toujours possible, du fait de la prise de conscience, du fait des actes de purification, de la confession, etc., tout cela qui sont des moyens de purification, on peut y venir complètement à bout. Par contre, ce qu'on appelle un tchede, par rapport à ce terme, quelqu'un qui, on pourrait dire, confie dans ses convictions, là, il n'y a pas grand-chose à faire. S'il rencontre un érudit, même ça, ça ne sert à rien parce qu'il se dit qu'il sait beaucoup mieux que l'érudit. Donc. Ah, il va se dire, de toute façon, ça, j'ai déjà entendu. Donc
c'est pas curieux, c'est vrai.
Je sais. Non, donc voilà, Gampopa ici utilise ce terme pour dire que si l'on développe ce genre de travers, ça devient très compliqué de pouvoir accomplir le dharma alors. Ensuite, instruction d'après. Si l'on n'entraîne pas son esprit à l'utilisation suivie de la méthode qui mène à la réalisation, c'est-à-dire la grande compassion, eh bien, on peut aussi s'engager sur le chemin inférieur du petit véhicule. Voilà, bon, ce qui est dit ici, c'est que certes, on peut se purifier toutes nos négativités, s'affranchir de tous nos travers, d'accord, on peut même parfaitement réaliser l'éveil dans le sens sortir du cycle des existences. Mais si l'on n'a pas développé cet amour et compassion, eh bien finalement, notre réalisation n'est pas totale.
Non.
Voilà, et puis ensuite, si l'on n'exerce pas son intelligence, sa connaissance, donc à l'égard de la vacuité, donc on n'acquiert pas une compréhension de cette vacuité, eh bien on risque, quoi que l'on fasse, donc quoi que l'on fasse même de spirituel, eh bien de suivre en fait les voies de la vie ordinaire.
Raison.
Ok.
Non.
La mala tenez dit que la.
Shirab tombani la lo majona somre va.
Non.
Shirab tombani la lo majona. Ngarong ke kurbe. Jeje kurbe lamze kurba yinse kurba le tatuji malse la. Toni ke ton magum na.
Ça veut dire qu'en fait, eh bien, nous avons besoin vraiment de méditer le sens de la vacuité pour que vraiment nous puissions sortir du cycle des existences. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, eh bien, d'ordinaire, nous sommes tout le temps en train de saisir une matérialité, même d'ailleurs à ce qui est immatériel. On saisit, on pourrait dire, une objectivité, dans le sens d'une réalité que l'on donne aux choses. Et il n'y a que cette réflexion, et plus encore réalisation de la vacuité, qui va nous affranchir de cette saisie d'une matérialité ou d'une saisie d'un phénomène comme s'il existait en lui-même. Voilà, ben, disons que le problème de cette saisie, c'est que tant qu'elle est là, tant qu'on n'est donc pas affranchi de cette saisie d'une forme de réification, ben, même si on s'adonne à des actes spirituels, ben, finalement, la manière dont on accomplit cette voie spirituelle, elle est faite de cette saisie. Et donc, certes, elle va nous apporter du bien et du bonheur, mais ça ne veut pas dire qu'elle devient libératrice, dans le sens de libératrice des états conditionnés. On est toujours dans la saisie de quelque chose, hein, dans ce sens-là, même si c'est très spirituel. Ensuite, si l'on ne s'affranchit pas des huit caractéristiques de la vie profane, c'est-à-dire en fait toutes les préoccupations ordinaires, eh bien toute notre activité, encore une fois même spirituelle, eh bien risque de n'être finalement qu'un vain ornement du cycle des existences.
Je dis,
Donc l'idée ici, c'est que si l'on n'abandonne pas ses préoccupations ordinaires, finalement, qui tournent de nouveau, hein, comme on l'a vu hier, tout autour de préoccuper par le bien, c'est-à-dire ce qu'on peut obtenir, Et là, Dilama, ce que l'auteur nous dit, c'est que finalement, même si on fait que voilà, notre pratique spirituelle prend les plus beaux atours, elle semble très belle, ben finalement, elle n'est qu'un ornement d'une vie ordinaire si elle est motivée par ses préoccupations ordinaires. Non, l'idée clé est de ne pas être soumis à ses préoccupations ordinaires. D'être libre de ça. Et ensuite, l'instruction nous dit les citadins dans le sens bon, lorsque les citadins manifestent trop d'aspiration, ça c'est une traduction un peu littérale, de foi en nous. Eh bien, en nous, par exemple, que si nous sommes un être dit spirituel, eh bien, on risque de devenir, pour le profane, l'alibi qui lui permet de se décharger de ses obligations dans le monde.
À quoi ça?
Vous voyez un peu l'idée? Oui? Non. Non? Tchik, à quoi gomendo?
Yeah.
Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans l'idée?
Attends. Il y a des mots, en fait, qui sont... Tchompe, tchivo, tchit, 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 tchit.
Non, mais dans le sens où vous pourrez très bien imaginer que dans ce cas-là, voilà, on a beaucoup de foi et de vénération pour un individu, hein, qu'on considère comme digne de cette vénération. Mais en fait, ben, ça nous décharge de notre responsabilité propre en tant qu'individu. Bon, mais c'est vrai que c'est aussi une situation dilemma où en Occident, ça ne se passe pas trop, ce genre de choses. Bon, c'est aussi là, c'est un cas de figure un peu culturel, parce que on peut imaginer, imaginons que là on est dans un pays de culture bouddhiste où voilà, on est un religieux ou on est une religieuse, et puis de ce fait, eh bien les gens s'adressent à nous pour régler tous leurs problèmes, en fait. Donc voilà, il se passe ça, j'ai un problème, donc faites une puja pour moi. Voilà, faites des rituels pour mes enfants, ça va pas bien à l'école, bon, n'importe. Faites des rituels pour moi, parce que j'ai un problème avec un cheval. J'ai un problème avec mon yak aussi, donc faites aussi... puis faites aussi un problème avec le dos puis les moutons, parce que vous savez... Voilà, non, mais vraiment. Voilà, puis après, oui, s'il vous plaît, faites des rituels pour mon père, et puis alors aussi pour ma mère, etc. Et puis finalement, c'est infini, à tel point, dit Lama, qu'on peut se perdre, le religieux peut se, ou la religieuse peut se perdre là-dedans, parce que finalement, bah, il prend tout pour lui, c'est-à-dire comme cette espèce de responsabilité, mais ça ne donne plus
à sa part.
Alors bien sûr, ils ont foi et confiance, ces gens qui s'adressent, c'est très bien, pas de problème avec ça.
Non.
Mais après,
Maintenant que moi, sans Christ.
Voilà, mais ce n'est pas que la vertu, parce qu'après, il y a, bon, alors j'ai été demandé un rituel à l'un, mais alors si je ne demande pas à l'autre, alors l'autre va mal le prendre. Je aussi demande. Puis on rentre dans, finalement, un écheveau d'obligation qui nous fait complètement perdre le sens profond de la pratique.
C'est ça.
Dans le sens où, finalement, c'est sa propre pratique spirituelle qui en pâtit, parce qu'on se fait prendre par ce réseau d'obligations. Mais là, en Occident, ça n'existe pas, Jean-Claude. C'est bien. Bon, il y a d'autres formes. Puis après, c'est quasi pareil. C'est-à-dire, si bien qu'ayant de grandes qualités et manifestant de grands pouvoirs, on n'est pas fermement établi dans une pratique profonde, en fait, mais qu'on est qu'on est établi dans une pratique extérieure, un peu comme on vient de le décrire, ben on risque de se laisser absorber par l'accomplissement de tous ces rites. Voilà, donc, de nouveau, l'idée, c'est la stabilité de l'esprit. Et donc, si on n'a pas cette stabilité, on peut se faire prendre bien, par ce genre de cas de figure.
Et maintenant,
bon, bien sûr, si l'individu a une vraie stabilité intérieure, ce n'est pas un problème non plus. Voilà, ce sont là les 10 risques.